Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Après la rentrée littéraire française que nous avons inaugurée la semaine dernière avec Chantal Thomas, place aujourd'hui à la rentrée étrangère. Et en toute priorité, le nouveau roman de l'écrivain américain Colson Whitehead, multi-récompensé, entre autres par le prix Pulitzer 2017 et le National Book Award, Underground Railroad, qui vient d'être traduit aux éditions Albin Michel, est incontournable. À 48 ans, l'auteur new-yorkais réussit avec ce sixième titre à écrire le grand livre de l'esclavagisme américain sous l'un de ses aspects les plus singuliers. Underground Railroad, en français le chemin de fer souterrain, désignait en effet le réseau clandestin d'aide aux esclaves en fuite des plantations, une chaîne de solidarité qui a permis à des milliers de personnes d'être sauvées entre 1820 et 1860. Une image de train filant vers la liberté qui a hanté des années Colson Whitehead, au point qu'il a décidé par la fiction de prendre l'expression au pied de la lettre. D'où cette fresque romanesque qui raconte l'évasion de la jeune Cora, 16 ans, en fuite et chassée dans un pays en pleine mutation. Traduit dans 40 langues, vendu à près d'un million d'exemplaires, salué par Barack Obama, en cours d'adaptation cinématographique par Barry Jenkins, oscarisé récemment, Underground Railroad est une œuvre puissante dont nous parlons tout de suite en compagnie de son auteur de passage à Paris. Bonjour Colson Whitehead.
Thanks for having me.
Que représente Cora pour vous? Est-ce que c'est l'incarnation d'un passé inoubliable où le peuple noir a été esclave, ou le miracle de l'espoir qui permet de survivre et de croire en un avenir meilleur?
She's the, you know, the formidable spirit.
C'est le personnage le plus fort, le plus puissant, qui n'arrive pas à être vaincu par l'oppression. Et donc pour moi, c'est ce personnage, cet humain puissant qui arrive à surmonter une oppression aussi épouvantable et qui arrive quand même à conserver l'espoir d'un lieu sûr pour elle.
Le roman s'ouvre dans les années 1820 à peu près, en Géorgie, dans une plantation de coton où vit Cora. Elle a 16 ans, elle a été laissée par sa mère qui s'est enfuie et qu'on n'a jamais revue. Et elle vit au quotidien la cruauté des propriétaires du domaine et aussi d'une certaine façon la rivalité entre esclaves. Et là, Colson Whitehead, vous nous y racontez des scènes très dures, violentes, insoutenable parfois, et pourtant sans y rajouter de douleur. Est-ce qu'il vous a fallu, vous aussi, mettre une certaine forme de distance dans votre écriture pour rester au plus juste, au plus près des faits?
In terms of writing,
quand j'ai commencé, c'était possible d'écrire de 10h du matin à 3h30 de l'après-midi et puis m'arrêter. Je passais pas la nuit à y penser. Le plus dur pour moi, ça a été de faire la recherche. Et évidemment, j'ai étudié à l'université tout ce qui était l'esclavage et j'avais vu Roots, Racine, quand j'étais petit. Mais en tant qu'adulte, revivre ça a été quelque chose de très très difficile. Imaginez que mes enfants aurait pu être vendu, aurait pu être agressé. Moi, ma femme, nous aurions pu être brutalisés et vendus. Alors, penser que moi, j'étais un descendant de personnes qui ont survécu à cela, c'est un miracle que je sois là. Les gens de la génération de mes ancêtres ont été détruits et tué. Donc le plus dur, c'était de réaliser ça. Et après, il fallait le mettre sur une page. Et après la violence et tout cela, c'est ce que j'ai étudié en recherche et que j'ai vu dans des textes écrits à l'époque. Les gens qui ont survécu des décennies plus tard ont décrit ce qui leur est arrivé d'une manière absolument, d'une voix absolument simple. C'était leur expérience de tous les jours. Ils n'avaient pas besoin de la dramatiser. La violence parlait d'elle-même.
Mais vous-même, vous avez mis un peu de distance
I started writing and the narrative voice provided distance.
Et le fait d'écrire la narration met la distance. Il faut que les personnages aient l'air véritablement réels, mais évidemment il y a une voix qui met tout en contexte. Et moi j'étais trop envahie d'émotion pour mettre de la distance. Mais de drôles de choses se sont produites. J'ai vu quand 12 ans esclave, 12 years a slave, quand j'avais déjà écrit une centaine de pages et j'ai été obligée d'arrêter. Je pouvais arriver à faire vivre ces horreurs à des gens sur la page, mais le voir des visus, alors que j'étais en train de l'écrire, ça c'était vraiment trop. Donc j'ai arrêté de voir le film en plein milieu et j'ai toujours pas vu la fin.
Mais d'une certaine façon, c'est vrai que Cora, qui est pourtant très jeune, s'est durcie. On sent qu'elle essaye de ne pas se laisser atteindre par tout ce qu'elle voit, même si un jour, un enfant, Chester, est battu devant ses yeux. Et là, elle intervient, c'est plus fort qu'elle. Mais on a l'impression que vous avez aussi durci vos personnages.
Well, you know, by the time a girl is 16, she's supposed to
quand elle arrive à 16 ans, en théorie, elle doit maintenant être enceinte et faire des petits. Quand on arrive à la puberté et qu'on est une femme esclave, eh ben, il faut faire des petits, histoire de rapporter de l'argent. Quand on a 16 ans, on a déjà vu tellement de violence, tellement d'agression, que, évidemment, là, on parle d'une expérience de tous les jours, et évidemment, elle vous endurcit.
Évidemment,
toutes les émotions que nous, on imagine normales, eh bien, elles deviennent complètement inaccessibles.
Alors, nous sommes toujours dans la première partie du roman Underground Railroad, et Cora, qui a été battue, qui a été violée, qui a été violentée, est néanmoins toujours debout avec cette espèce de force intérieure incroyable. Et là, un des esclaves de la plantation lui propose de s'échapper pour rejoindre The Underground Railroad, qui donne son titre à votre roman, une ligne de chemin de fer souterraine grâce à laquelle les fugitifs peuvent passer dans d'autres états. Est-ce que ce chemin de fer a réellement existé ou c'était plus exactement le nom d'un réseau clandestin d'évasion ?
American history was a metaphor.
L'histoire américaine, c'est une métaphore. Dans la réalité, le chemin de fer clandestin était en fait le nom des gens qui, par exemple, aidaient les gens à fuir sur 100 kilomètres plus au nord ou bien leur donnaient de l'argent. Ça n'a jamais été un tunnel souterrain littéral. L'origine de cette phrase vient d'un maître qui était tellement surpris à voir une fois un esclave échappé qu'il a dit, mais elle a tellement disparu qu'on aurait dit qu'elle avait disparu dans un tunnel. Et c'est ainsi que la métaphore a été utilisée.
And when you're a child, and
quand on est un enfant et qu'on entend ça pour la première fois, on s'imagine que c'est vrai, que c'est le métro, quoi. Et alors, mon livre vient justement de cette idée de faire en sorte qu'au lieu que ce soit des gens, eh bien, évidemment, que ça devienne littéralement un véritable chemin de fer souterrain, comme le métro.
Donc en effet, vous imaginez que des mains noires ont creusé dans la terre des tunnels, que des rails ont été installés et que régulièrement des trains viennent chercher des fugitifs. On vient de l'entendre avec vous, Colson Whitehead, c'est purement sorti de votre imagination. Et en même temps, c'est vrai que c'est une formidable métaphore de libération et de liberté, comme si le déplacement géographique était l'avancée historique du pays.
You know, Cora's journey starts in Georgia on this plantation.
Si vous voulez, le voyage de Cora commence en Géorgie. Et son voyage, c'est là que ça devient fantastique. C'est que chacun des États devient une métaphore des possibles de l'Amérique. Elle commence en étant un objet, une propriété. Et dans chaque État où elle arrive, elle devient de plus en plus une personne. Ses idées de liberté se trouvent mises à l'épreuve. Et dans chaque État, elle est confrontée à une réalité américaine différente, comme elle se rapproche à la fois de la liberté et de l'expression d'elle-même.
Alors effectivement, pendant ces 10 mois de liberté, Cora va vivre dans plusieurs États, Caroline du Sud, Tennessee, Indiana. Elle va être traquée par un chasseur d'esclaves, enfermée pendant des semaines dans un grenier, utilisée comme mannequin vivant dans un musée, traitée presque comme cobaye pour la médecine. C'est vrai que chaque État représente une Amérique différente, mais néanmoins, ce qui frappe, c'est la terreur que ressentent les fugitifs, bien sûr, mais aussi les blancs abolitionnistes qui parfois subissent les mêmes traitements quand ils sont démasqués. Est-ce que c'était aussi l'un des enjeux du livre, montrer que l'horreur était partagée au-delà de la couleur de peau.
Well, yeah, I'm trying to show the true,
oui, j'ai essayé de montrer la vraie réalité. Il y a des méchants qui sont blancs, mais il y a aussi des héros blancs qui sont les abolitionnistes. Il y a des méchants noirs, mais aussi des héros noirs. Ça, c'est la chorale humaine, si vous voulez. C'est le cœur des êtres humains. J'ai 60 pages, à peu près, par état. Du coup, ça me donne la possibilité d'avoir un passé pour chacun de ces personnages, comme par exemple Ethel. Voilà quelqu'un qui est une blanche, qui n'est ni une esclavagiste, ni une abolitionniste. Elle vit entre les deux et elle représente la plupart des Américains et des Américains qui, aujourd'hui, par exemple, sont indifférents à tel ou tel problème social. De la même manière que nous ne perdons pas trop de sommeil à penser à la Syrie tout le temps ou bien à penser aux sans-abri par exemple. Et c'était cela ma mission, montrer la variété et la diversité des attitudes américaines par rapport à l'esclavage.
Une question que je ne vous ai pas encore posée, Colson Whitehead, pourquoi une femme? Parce que c'est plus spectaculaire à cette époque qu'on survive dans ces conditions aussi violente et drastique.
Il y a plusieurs raisons.
Il y a cette femme qui s'appelle Harriet Jacobs, qui a vécu pendant 7 ans dans un grenier. Et elle était très impressionnante dans son histoire. Elle explique comment on devient de fille esclave à femme esclave et qu'on doit fabriquer des enfants pour le maître. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais absolument raconter. De plus, je n'avais jamais raconté d'histoire où il y avait une relation mère-fille. Ça aussi, c'était pour moi quelque chose de très excitant. Et d'autre part, dans mes livres précédents, j'ai eu toute une série de héros masculins. Et donc comme ça, c'était quelque chose de différent. Avoir une femme héroïne, c'était un défi pour moi.
C'est surtout une généalogie de femmes, puisque vous commencez avec la grand-mère qui est arrachée de son Afrique natale et qu'on voit voyager sur les bateaux négriers. Ensuite, Mabel, qu'on aperçoit à peine puisqu'elle disparaît assez vite. Et puis Cora. Donc c'était aussi toute une tribu de femmes qui vous intéressait.
C'est-à-dire
qu'avant d'arriver à l'histoire de Cora, je veux qu'on sache exactement dans quel monde on arrive. On suit d'abord sa grand-mère quand elle est volée en Afrique, quand elle traverse la mer sur le bateau négrier, et puis ensuite tout le reste de sa vie passé sur la plantation. Quant à la mère de Cora, elle ne quitte pas non plus la plantation avant de s'échapper. Et Cora aussi, avant de s'échapper, sur la plantation. Et je voulais d'abord décrire la vie d'un esclave ordinaire avant d'emmener Cora dans ce voyage.
Alors, vous avez parlé d'une femme qui s'appelle
Harriet Jacobs
est connue pour avoir une blessure parce qu'elle a été battue qu'elle avait des visions. Et elle dit que ces visions l'ont amenée à être opératrice sur le chemin de fer. Mais je n'ai pas fondé Cora sur une personne véritable. Elle est plusieurs personnages et en plus sa personnalité est la sienne. En particulier dans la section en Caroline du Nord, quand elle est cachée dans ce grenier, évidemment je pense à Harriet Jacobs dans son grenier, mais ensuite on pense à Anne Frank aussi bien.
Et
ça permet là aussi d'élargir le sujet en amenant le racisme scientifique. Les nazis l'ont fait de manière scientifique et de même qu'au 19e siècle en Amérique.
Oui, effectivement, ce long passage où Cora est confinée dans un minuscule grenier nous fait forcément penser à Anne Frank. Et de fait, on se dit, Colson Whitehead, que votre livre est aussi un livre qui défend toutes les minorités, tous les peuples qui ont été asservis. Évidemment, le peuple noir, évidemment, les femmes, évidemment, les juifs et les Indiens. Le peuple indien qui a été massacré par les Américains venus d'Europe, vous en parlez aussi.
On dit
que le péché originel de l'Amérique, c'est l'esclavage. Mais en fait, le péché originel, c'est d'avoir exterminé les Indiens. Et voilà pourquoi Ridgway, qui est le premier personnage négatif, l'anti-héros du livre, il représente évidemment tous les idéaux négatifs de l'Amérique. La Manifest Destiny, la supériorité blanche raciste, et ça fait partie de l'histoire de l'Amérique, mais ça ferait partie aussi de l'histoire de n'importe quelle puissance impériale et puissance coloniale.
Et je précise que Ridgway est le nom de ce chasseur d'esclaves qui va consacrer des années à la recherche de Mabel et ensuite de Cora. Ça deviendra son obsession. Alors, on l'a vu, c'est un formidable roman d'aventure, d'apprentissage, puisque Cora voyage malgré elle. Elle voit toutes les facettes de l'Amérique, comme Gulliver, qui dans ses expéditions rencontrait plusieurs types d'humains, des géants dans un endroit ou des Lilliputiens dans un autre. Et effectivement, César, son ami, possède un exemplaire des voyages de Gulliver avec lui. Et puis, il y a aussi un autre personnage qui dit que la déclaration d'indépendance, c'est comme une carte géographique. Donc, pour vous, ce roman, c'est aussi la cartographie de l'Amérique historique, sociale, où l'on voit le meilleur comme le pire.
Sure, it's a map and it takes, oui. You know, it takes Cora many different places.
C'est une cartographie qui emmène littéralement Cora dans différentes routes. Certaines sont plus réalistes que d'autres. J'ai d'abord eu l'idée il y a 17 ans d'écrire ce livre, mais j'étais pas prêt à l'écrire. Mais je décrivais des gens, j'ai raconté ça à des gens, et les gens me disaient, mais enfin, ça paraissait bizarre. Et puis j'ai commencé à expliquer mon histoire comme s'il s'agissait des voyages de Gulliver, en décrivant chaque état comme étant un des voyages de Gulliver. Et là, tout le monde, tout d'un coup, s'est mis à comprendre et m'ont dit, ah oui, mais c'est une excellente idée. Et voilà comment j'ai commencé à songer à Gulliver et que j'ai mis un exemplaire de Gulliver dans les mains de César. Mais nous avons évidemment la déclaration d'indépendance, c'est un document de base d'Amérique qui dit que tout le monde naît égaux en droit. Mais c'est faux. Les Noirs ne sont pas égaux. Les femmes non plus. Alors, elle s'éduque, Cora, et elle devient plus éduquée. Et à ce moment-là, évidemment, elle s'interroge sur la vraie valeur de cette déclaration d'indépendance.
Si c'est un roman de réflexion, mais aussi d'action, où on avance, où il y a un vrai suspense, on a toujours peur pour Cora. Est-ce qu'elle va être rattrapée ou pas? Il se trouve qu'en effet, à deux reprises, elle est rattrapée par ses poursuivants. Donc, c'est un roman qui avance comme un train dans le Underground Railroad. Et en même temps, dans votre écriture, il y a quelques flashbacks. Et je me demandais si c'était aussi pour nous rappeler que finalement, aucune avancée des droits n'est jamais acquise et que l'histoire avec un grand H peut aussi régresser.
Donald Trump.
Je pense que l'élection de Donald Trump, par exemple, représente une régression essentielle après 8 ans d'Obama. Et cette idée qu'on progressait, qu'on avançait au-delà de ces failles nationales fondamentales. Et on s'imaginait qu'il y avait cette énergie qui nous menait en avant. Et puis, évidemment, il y a des reculs. Pour ce qui est de l'action, l'histoire de l'esclavage dans le Nord, c'est une histoire de vie et de mort, parce qu'on peut évidemment la tuer si elle est attrapée. J'ai écrit des livres qui avaient une intrigue énorme, d'autres où il n'y avait pas du tout d'intrigue, et là c'était effectivement une structure qui était fondée sur le suspense.
Alors c'est un livre qui, à juste titre, a reçu le National Book Award et le prix Pulitzer. Toutes nos félicitations. Est-ce que vous avez été étonné de tant de retours positifs ou vous sentiez, en écrivant Underground Railroad, que c'était vraiment un grand livre?
Quand j'écrivais ce livre, j'étais très enthousiasmée. J'avais l'impression de faire mon boulot habituel. J'essaye de faire de mon mieux à chaque livre et j'étais effectivement fière de à quoi il ressemblait. Mais c'est seulement quand il a quitté mes mains que j'ai eu une idée de comment les gens réagissaient à ce livre. D'abord ma femme, et puis mon éditeur, et puis les libraires. Ils sont en général toujours, ils me soutiennent, ils sont toujours très sympas, mais là les réactions étaient beaucoup plus importantes. Et donc moi je l'aimais bien, mais quand il a quitté mes mains, je me suis rendu compte que les gens réagissaient très très fort, et évidemment c'est quelque chose de très gratifiant.
Merci beaucoup, Colson Whitehead. Je rappelle le titre de ce roman qui a gardé son titre original, Underground Railroad, qui paraît aux éditions Albin Michel, traduit de l'américain par Serge Chauvin. Et merci beaucoup à Dominique Chevalier qui a traduit vos propos tout au long de cette émission.
It was my pleasure. Thank you.